TF Radio, la radio des jeunes.
Émission Intergénération.
Aujourd'hui dans l'émission,
nous recevons des résidents de la Claire Noé.
Dans la radio des jeunes communes prières, aujourd'hui nous recevons la Claire Noé.
Bonjour et bienvenue sur TF Radio pour la première émission ayant pour thème l'échange intergénération. Le sujet de cette première émission, témoignage de deux tranches de vie de résidents de l'EHPAD. Aujourd'hui, dans le studio de TF Radio, nous recevons trois personnes. Cédric, animateur de la Claire Noé, et deux résidents de la Claire Noé, Françoise et Marie-Madeleine. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Avant de plonger dans la vie de nos deux résidents de la Claire Noé, nous aimerions donner la parole à Cédric afin qu'il nous explique un peu plus en détail son parcours pour devenir animateur à la Claire Noé et de nous présenter globalement ce qu'est la Claire Noé.
Donc, rebonjour. Donc moi, après un cursus en apprentissage du CAP au BTS dans le domaine du commerce, et après quelques années de travail dans ce même milieu, j'ai décidé d'aller déjà vivre à l'étranger, en Irlande notamment, afin d'être au contact d'une autre culture. Ça a duré un an à peu près, un petit peu moins. Et après mon retour en France, j'ai repris mes études dans le but d'être au service des autres. Et donc en 2003, j'ai suivi une formation diplômante pour devenir donc animateur. Donc ça m'a apporté des outils, une meilleure connaissance du public avec qui je partage mon quotidien aujourd'hui. Donc j'ai intégré l'équipe de la Claire Noé donc en mars 2005, et puis j'y évolue à temps plein depuis mars 2012.
Combien de résidents compte l'EHPAD ?
48.
D'où vient le nom de la Claire Noé ?
Alors, il y a deux choses. Le terme, enfin la signification du mot Claire, c'est dû à l'architecture du bâtiment qui offre une grande luminosité, autant dans les appartements que dans l'ensemble de la maison. Et pour le mot Noé, ça correspond au nom du plan d'eau des Noé. Voilà.
Comment est venue cette idée de venir effectuer une émission radio et quel intérêt ?
Donc en fait, il y a eu un premier contact des animateurs d'ici même. Et donc nous avons évoqué un petit peu cette idée. Et puis c'est vrai que l'objectif, de créer un moment comme ça, partagé entre des générations, nous paraissait plus qu'intéressant. Donc voilà.
Cédric, quel morceau veux-tu nous faire écouter ?
Alors, le morceau, c'est... je parle pas espagnol, vous m'excuserez pour l'accent. C'est Notas, de Gotham Project. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, c'est un groupe que j'ai vu en concert qui m'a vraiment marqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a une association intergénérationnelle dans ce groupe-là. Je me souviens, alors ça fait quelques années, est-ce que c'est encore d'actualité ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y avait, je me souviens, un jeune guitariste qui devait avoir à peine une vingtaine d'années. Il y avait un pianiste qui avait au moins une bonne soixantaine d'années. Il y avait une chanteuse argentine qui avait une bonne trentaine. Et il y avait des DJ aussi qui étaient derrière, qui avaient une trentaine d'années. Donc ça faisait une association de culture et d'âge qui était intéressante. Pourquoi également cette musique ? C'est le fait de proposer une musique, si je ne m'abuse, qui est de la fin du 19e siècle, qui s'appelle le tango, qui est connu, mais remis au goût du jour, associé à des rythmes actuels. Donc voilà.
D'accord. Bah, on écoute ça dès à présent.
Africanos en las pampas argentinas, toques y llamada de tambores. Candombe, tango, un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la indiada. China se va en mate. Bandoneón, violín y flauta, habanera, canzoneta de los tanos, piano, piano nació el tango. El baile, compadrito y orillero, guapo, futurista y nostalgioso. Mestizaje de europeos, negros, indios. En el Río de la Plata hace mucho, no se sabe justo cuándo, un buen día nació el tango.
Vous êtes toujours sur TF Radio et je vais vous rappeler le sujet de l'émission d'aujourd'hui. C'est l'échange intergénération. Françoise et Marie-Madeleine ont accepté notre invitation afin de témoigner sur certains moments de leur vie. Nous commençons par Françoise et nous partons à l'époque de son enfance. Pouvez-vous nous dire comment était votre enfance et plus particulièrement votre période scolaire ?
La période où je... Alors là, c'était une petite école. Parce que c'était dans la campagne. Alors, on avait assez loin, j'avais 2 kilomètres pour monter à l'école. Et nous allions à pied, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas de vélo. Alors, on allait à pied, on se retrouvait tout le village à grimper ensemble, on était bien contents, on faisait des fous.
Jusqu'à quel âge pouvez-vous aller à l'école ?
Comment ?
Jusqu'à quel âge pouvez-vous aller à l'école ?
Alors, en principe jusqu'à 12 ans, mais jusqu'à 14 ans.
Par quel diplôme validait-on ses connaissances ?
Le certificat d'études.
En quoi constituait ce diplôme ?
Alors, il était assez dur quand même. Il faut compter comme au brevet maintenant.
Que devait-on savoir pour l'obtenir ?
Il fallait savoir l'arithmétique, l'orthographe, la science aussi.
Comment se déroulaient vos journées de classe, le fonctionnement des classes ?
Le matin, on commençait à 8 heures et on finissait à 4 heures le soir, avec une coupure le midi, bien sûr. On mangeait soit à la cantine ou soit directement sur le préau.
Les classes étaient-elles mixtes ?
Les classes étaient-elles
mixtes ? Est-ce qu'il y avait des garçons et des filles dans vos classes ?
Alors, on était séparés, que des filles ou que des gars.
Comment travaillez-vous ?
Il y avait une institutrice pour la petite classe et une pour la grande classe. Alors on était séparés, bien sûr.
Vous aviez le temps de réviser vos leçons chez vous ?
Il fallait, quand on arrivait le soir, il fallait faire les devoirs du soir et apprendre les leçons pour le lendemain.
En quoi consistait votre travail à la ferme sur les différentes périodes de l'année ?
Oui, alors à l'hiver, c'était davantage le travail à la maison parce que les bêtes ne sortaient pas beaucoup. Et à la belle saison, il fallait les sortir. Et on appelait ça garder les vaches, on les emmenait dans un pré et il fallait faire attention qu'ils ne vont pas dans le pré à côté.
Pouvez-vous nous parler des animaux, des bêtes ?
Oui, à ce moment-là, il y avait, où j'étais, moi, il y avait 5-6 vaches, ça dépendait. Alors le matin, il fallait les traire et après leur mettre du foin à manger. Et les emmener dans les champs la matinée.
Quels étaient vos horaires de travail ?
À l'école ? À la ferme ?
À la ferme.
Alors, là, on commençait vers 9h le matin pour traire les bêtes et leur donner à manger et les emmener dans les champs. Ensuite, il fallait faire le ménage pour la maison, faire la cuisine.
Quelle période de l'année préfériez-vous ?
La belle saison.
C'est-à-dire ?
Au printemps et à l'été. Parce que l'hiver, c'est pas très agréable.
Combien étiez-vous dans votre famille ?
On n'était que 2 filles, nous.
4, avec vos parents ?
Ah oui.
Toute la famille participait aux tâches de la ferme ?
Oui. Mais, sauf mon père qui était un grand métier de bure.
Avant de donner la parole à Marie-Madeleine, nous allons effectuer une pause musicale. Françoise, vous avez choisi une chanson. Arrêtez les aiguilles, interprétée par Berthe Sylvia. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Parce que si on arrêtait les aiguilles, on ne verrait pas de décès chez soi. Hein, on vieillirait pas.
Riche terre, quoi qu'on fasse sur la terre, notre existence est une chose éphémère, et des pendules, le tic-tac incessant, semble nous dire, tout passe avec le temps. Voici l'enfant qui vient de venir au monde, sa mère penchée vers sa petite tête blonde, vers la pendule placée près de son lit, jette un regard et soucieuse se dit, si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, nos petits enfants si mignons, si gentils, grandiraient pas pour déserter leur nid. Lorsqu'à 20 ans, un jour ils se marient, sans un regret, ils partent et vous oublient. Et les mamans dont ils brisent l'espoir, pensent on voudrait près de soi toujours les voir. Restez petits, garçons ou petites filles, si l'on pouvait arrêter les aiguilles. Dans les campagnes ainsi que dans les villes règne le calme et chacun vit tranquille, sans se douter qu'un orage gronde au loin pour bouleverser la paix du genre humain. Un peu partout, en Europe, en Afrique, les noirs dessous de l'infâme politique sème la guerre, horreur de tous les temps, que nul ne peut arrêter pourtant. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, on n'entendrait plus le tocsin sonner pour enlever nos fils à leur foyer. Quant à l'instant où tous les bras travaillent, quoi de plus triste que l'heure des batailles? Peut-être qu'un jour, retrouvant sa raison, l'homme maudira la guerre et ses passions. Plus de tueries, ni d'hommes qui se fusillent. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles.
De retour sur TF Radio dans le studio, on écoute Marie-Madeleine qui va à son tour nous expliquer son enfance. Marie-Madeleine, on vous écoute.
Bien. Eh bien voilà, pour aller à l'école, moi j'habitais dans une ville, moitié campagne, il y avait encore des champs avec des vaches. Et puis pour aller à l'école, on allait à pied, bien entendu, et c'était loin, il fallait compter 20-25 minutes pour aller à l'école. Et en arrivant en classe, dans la première classe, on allait à 6 ans à l'école, on n'allait pas avant, on n'allait pas dans les maternelles et tout ça. La première classe qui existait, on rentrait à 6 ans et la maîtresse faisait jusqu'au cours élémentaire deuxième année. Elle avait donc les enfants qui apprenaient à lire, à écrire, et puis les deux cours élémentaires. Alors elle avait du travail, on était à peu près 80 dans la classe, imaginez-vous. Eh bien, ça marchait comme sur des roulettes, hein, parce qu'avec elle, on ne riait pas, il fallait bosser. Bon, ben, on bossait, hein, c'était le cas. On apprenait à écrire sur une ardoise d'abord, les lettres sur une ardoise, avec un crayon d'ardoise qu'on mettait dans un porte-mine. Et puis après, quand on a assez bien les lettres, on avait des cahiers avec une double ligne. Alors il fallait écrire les lettres sans dépasser les lignes. Et après, on avait un cahier avec une seule ligne. Vous voyez, c'était ça. Et alors, on apprenait à lire pas la méthode globale. On apprenait B à B, B E B, B E B. C'est comme ça qu'on apprenait à créer, à lire. Et on apprenait vite. Parce que CH, maintenant, ça fait cheval. Hein. C'est comme ça qu'ils apprennent à lire. Bon, ça va pas. Et puis voilà. Et puis les journées étaient longues, on commençait à 8h30, on finissait à 11h30, on recommençait à 1h30 et jusqu'à 6h. Parce que jusqu'à 4h30 on allait à l'école, enfin on était en classe, on avait de 5 à 6, de 4h30 à 5h on avait le goûter, et puis à 5h on avait encore un devoir, des problèmes, des choses comme ça. Alors on travaillait beaucoup, mais on n'est pas mort, hein, parce que quand même, j'ai 92 ans, vous voyez, j'ai supporté le choc. Hein. Donc, c'était ça l'école.
Pour vous rendre à l'école secondaire rue Montparnasse à Paris,
oui.
Vous preniez le train ?
Ah oui, je prenais le train. Et alors avec nos cartables, toute notre fourbi, eh ben, j'avais 12 ans à l'époque, après le certificat d'études. Et il fallait pas rater le train. Quand maman disait, il est 7h30, vous allez rater le train. Alors on courait avec ma soeur, prendre le train. Et puis quand on arrivait à la gare du Nord, on prenait le métro. Orléans, Grignancourt, on avait encore 20 minutes de métro. Puis il fallait faire vite, toujours, toujours, toujours. Puis le métro, c'était pas comme maintenant, c'était des escaliers, c'était des portillons qui se fermaient automatiquement quand le métro rentrait en gare. Et on avait des tickets, enfin comme les autobus maintenant, on avait des tickets et il y avait un monsieur qui s'appelait un poissonneur. Alors quand le portillon se fermait, hop là, il avait une pince, il poissonnait les tickets. Et à l'époque, il y avait deux classes au métro, il y avait les premières et les secondes classes. Mais vous savez, on dit il y a du monde maintenant, mais à l'époque, il y avait du monde aussi, parce qu'il n'y avait pas de voiture comme maintenant, hein. C'est sûr. Tout est relatif, dans le fond.
Vous étiez en internat ?
Non, j'étais en demi-pension. Parce qu'on pouvait rentrer à la maison le midi, mais enfin, ça nous causait quand même des soucis. Le soir, on arrivait à 7h à la maison.
Quel diplôme avez-vous obtenu à la fin de vos études ?
Ah, comment je vais dire ça ? À la fin de mes études, j'ai eu un diplôme de professeur de sténotypie.
Qu'est-ce que la sténotypie ?
Qu'est-ce que c'est que la sténotypie ? Ben, on dirait que c'est un MS, comme vous faites là maintenant sur vos fourbis, là.
C'est quoi ?
Vous savez, quand vous envoyez des messages. Oui. Bon, et ben on écrit phonétiquement, mais on écrit phonétiquement sur une machine à écrire plus petite qu'une machine à écrire. Oui. Il n'y a pas toutes les lettres. Alors, on écrit phonétiquement, là. Vous savez, comme dans les supermarchés, quand on vous tape le prix, ça s'enroule sur une bande. Mmh. Alors, on écrit, ça, on parle, on écrit, ça s'enroule sur la bande. Et après, ben, quand c'est fini, on enlève ça, on le remet sur un dérouleur et on tape en dactylo. Mais il faut avoir de l'orthographe, hein, parce que comme on a écrit ça comme ça, il faut pouvoir remettre les choses dans le bon sens.
Avant de continuer sur vos témoignages, nous allons écouter une des chansons que vous vouliez faire partager à nos auditeurs, car elles correspondent à l'époque où vous preniez le train et le métro pour vous rendre à l'école. Cette chanson qu'on écoute sans plus tarder est...
Poissonneur de lilas.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Françoise, pouvez-vous nous parler de votre métier? Comment avez-vous obtenu un poste d'infirmière?
Alors, je viens d'entrer à 30 ans à l'hôpital, et là, il a fallu passer le concours d'entrée. Ensuite, il y avait 2 ans d'études pour passer les examens. Examen de première année, examen de deuxième année, qui nous donnait le diplôme.
Et en quelle année avez-vous eu votre diplôme?
Comment?
En quelle année avez-vous eu votre diplôme?
Ben, j'avais 32 ans.
Où exerciez-vous votre métier?
À Pont-Orson pour commencer pendant 9 ans. Et après, je suis venue à Rennes, à l'hôpital psychiatrique.
Parlez-nous de la formation en interne pour être infirmière. Quels sont les différents cours que vous avez eus?
On n'était pas interne. On est de chez soi. On commençait soit de matin, soit d'après-midi. Alors on était 15 jours, un mois de matin et un mois d'après-midi après. On commençait à 6 heures le matin. Et l'après-midi, on commençait à 2 heures jusqu'à 9 heures le soir.
Oui. Mais quels sont les différents cours que vous avez eus pendant...
Les différents?
Oui, les différents cours pendant votre formation.
Alors, on avait le médecin de la ville qui faisait l'anatomie, les médecins de l'hôpital qui faisaient la psychiatrie, le directeur qui faisait l'administration et le pharmacien qui faisait la pharmacie aussi.
Quelles sont les difficultés quotidiennes que vous avez rencontrées dans votre travail?
C'est surtout le mélange de malades. Il y avait des jeunes, des gens plus âgés, alors des fois, ça fallait faire attention pour la bagarre.
Quelles sont les qualités qu'on doit posséder pour faire le métier d'infirmière?
Il faut surtout avoir beaucoup de patience, de compréhension aussi. Écouter beaucoup, écouter les malades, de façon qu'ils puissent dire quand même aussi qu'on arrive à savoir un petit peu ce qu'ils attendent de nous.
Comment le métier a-t-il évolué de vos débuts à nos jours?
Oh, il a évolué pas mal. Parce qu'on n'avait pas les fauteuils, par exemple, maintenant il y a des fauteuils roulants. Tandis qu'à ce moment-là, on n'avait pas de fauteuils pour sortir les malades. Il fallait les mettre dans un fauteuil en osier et traîner le fauteuil.
Il fallait avoir des muscles.
Oui. Oui.
On se quitte pour quelques instants avec une courte plage musicale. Avec, dans un premier temps, une musique qui vous rappelle un souvenir de jeunesse à Raux, sur Couesnon, la petite église interprétée par Jean Lumière, et ensuite on écoute Ma Normandie de Frédéric Bérard, car c'est une région proche de la Bretagne.
c'est une église au fond d'un mot dont le fin clocher se mire dans l'eau pure d'une rivière. Lorsque je suis là du monde et du bruit, j'y viens à pas lents quand tombe la nuit. Faire une prière. Des volubilis en cachent l'entrée. Il faut dans les fleurs faire une trouée pour venir prier au lieu saint. Un calme imposant y saisit tout l'être avec le printemps, un parfum pénètre. Muguet et jasmin, des oiseaux parfois bâtissent leur nid sur la croix de bronze où Jésus souffrit. Le vieux curé les laisse faire. Il dit que leur chant est l'hymne divin qui monte des cœurs en le clair matin vers Dieu notre Père. Je suis une église au fond d'un hameau dont le fin clocher se mire dans l'eau pure d'une rivière. Lorsque je suis là du monde et du bruit, j'y viens à pas lents quand tombe la nuit. Faire une
notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aime à revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Les champs de l'Helvétie et ses chalets et ses glaciers. J'ai vu le ciel de l'Italie et Venise et ses gondoliers. En saluant chaque patrie, je me disais qu'aucun séjour n'est plus beau. Ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Il est personnages dans la vie où chaque rêve doit finir, un âge où l'âme recueillie a besoin de se souvenir.
Lorsque ma muse refroidie vers le passé fera retour,
j'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour.
De retour sur la radio. Nous avons encore quelques questions à poser à nos invités. Marie-Madeleine, que vous est-il arrivé après vos études ?
Ben après mes études, j'étais bien ennuyée parce que j'étais en vacances en Algérie. Et puis, la guerre s'est déclarée le lendemain de mon arrivée. J'ai pas pu rentrer en France. Métropolitaine, dirons-nous, pour dire vrai. Et j'étais obligée de trouver du travail parce qu'il fallait bien vivre. Et j'ai fait tous les métiers, 36 métiers, 40 misères. J'ai jamais professé, j'ai jamais fait mon métier, mais j'ai fait autre chose. J'ai appris tout un tas de choses en comptabilité, dans diverses branches. Et puis voilà, puis je me suis mariée et puis j'ai eu 4 enfants. Et puis quand ils ont été assez grands pour aller à l'école, ben, j'ai recherché du travail et j'ai été engagée comme institutrice dans une école. Et j'ai fait la classe du certificat d'études. Ça vous concerne, ça, hein ?
Ouais.
Oui. Et j'avais des enfants qui étaient intelligents, mais retardés parce qu'elles étaient dans la montagne où c'était une école où qu'on appelle ça un douar. C'était des habitations arabes, avec des petits arabes, mais il fallait déjà leur apprendre où était le nez, ça s'appelait la bouche, avant de leur apprendre les lettres. Alors vous comprenez que quand on est très astucieux, on apprend. Mais quand il faut pousser, si on ne vous pousse pas, vous n'apprenez pas. Alors je les ai retrouvés, moi, pas arriérés, non, c'est trop dire, mais bien retardés. Alors, on travaillait dur, mais on avait le certificat d'études. Alors, je leur disais, ça, c'est comme à la Légion, c'est marche ou crève. Si vous n'avez pas le certificat d'études, vous ne pourrez pas vider les pots de chambre à l'hôpital, parce que c'était le seul endroit où on pouvait trouver du travail. Parce qu'à Mascara, c'est une ville de vignobles et une ville de garnison. Alors, ils avaient l'habitude des militaires. Ils savaient ce que c'était que les légionnaires qui s'en allaient avec le sac sur le dos et les grosses chaussures et les armes. Eh bien, ils sont bien contents d'avoir le certificat d'études parce que je les ai fait beaucoup travailler, mais 50 ans après, ils me téléphonent pour me souhaiter la bonne année, pour me souhaiter mon anniversaire. Alors, vous voyez, il ne faut pas taper sur les instituteurs. C'est pas beau, hein?
Vous avez eu des enfants, pouvez-vous nous décrire votre quotidien ?
Le quotidien, c'était bien dur en Algérie parce qu'on n'avait pas... Nous, dans notre département d'Oran, ce n'est pas un département agricole, on a la vigne. Alors bon, pendant la guerre, la vigne, le vin, c'était bien, mais on ne mangeait pas avec du vin. Alors on avait des tickets d'alimentation, comme en France, d'abord, vos parents, enfin vos grands-parents ont dû avoir ça. Mais les bateaux coulaient en Méditerranée, donc le ravitaillement n'arrivait pas. Alors on avait un quart d'huile par mois, un morceau de savon gros comme l'épaisseur d'un doigt, ben, il fallait se débrouiller avec ça, du café, c'était rare quand on en avait, on avait du ticket, on n'avait pas de café. Alors on faisait griller... si on pouvait avoir de l'orge par un tel qui en avait, qui voulait bien vous en passer, on mettait ça dans un brûloir avec la manivelle, et puis on prenait cet ersatz de café. C'était pas bon, hein, bon, faut dire. Mais enfin, c'était pour avoir quelque chose de chaud. Mais c'était dur, on allait cueillir les pissenlits sur les routes.
On va écouter un extrait musical. Ma môme interprétée par Jean Ferrat et Les amoureux des bancs publics interprétés par Georges Brassens.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'ensommeille, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas de lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Françoise, vous avez connu une guerre en France. Laquelle ?
C'est à moi que vous avez parlé.
Non, Françoise.
Ah bon, Françoise. On a connu la guerre de 40-44. Et puis, oui. Où on était, il y avait l'occupation, il y avait les Allemands qui étaient en France. Alors, on avait pas beaucoup de choses. On avait les restrictions d'abord. Pas de chocolat, pas de sucre. Ou alors, il appelait ça les gitois, ceux qui avaient moins de 12 ans. On avait droit à une petite peur. Mais enfin, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas quand même.
Comme quoi ? Qu'est-ce que vous avez, à quoi vous n'aviez pas le droit ?
Qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit ?
Ouais.
Alors, le café, le chocolat, donc. Le pain, c'était du pain noir qui n'était pas bon. On attrapait ce qu'ils appelaient la guerre du pain avec. Et c'était très difficile, ça nous démangeait. Alors, on avait des tickets pour la viande aussi, mais enfin, en campagne, on n'en souffrait pas. Hein. Parce qu'on élevait des lapins, on élevait des poules, on pouvait manger de la viande.
Marie-Madeleine, vous avez choisi un extrait musical qui se nomme « Mon vieux » de Daniel Guichard.
Oui.
Pourquoi vous l'avez choisi ?
Parce que quand on est enfant, on ne se rend pas compte de ce que font les parents. Vous avez envie d'aller à la mer, eux ont envie d'aller à la montagne. Bon, ben pour vous faire plaisir, ils vont aller passer les vacances à la mer. Vous direz « Oh, chouette, bon, c'est bien, mais c'est tout ». Alors qu'eux se sont beaucoup privés, ils ont fait un sacrifice pour vous faire plaisir. Mais on s'en aperçoit seulement quand on a perdu ses parents. Quand on est âgé, on se rappelle, on se dit « Oh, j'aurais dû lui dire mieux que ça, j'aurais dû les embrasser plus souvent ». Parce qu'on embrasse bonjour, bonsoir, c'est tout, mais on ne va pas se faire un petit câlin comme ça, pour rien, sans rien demander, rien que pour le plaisir. Et ça, c'est regrettable. Et on s'en aperçoit quand c'est trop tard.
C'est pour ça que
alors,
vous
il faut que vous pensiez à ça maintenant.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois. C'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, y n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.
De retour sur TF Radio, on peut conclure cette émission. Cédric va nous parler de plus en détail de la Claire-Noé. Comment y est-on admis ?
Alors, concernant donc l'admission, alors chaque demande est examinée lors d'une commission qui est composée par le directeur de la maison de retraite, de l'infirmière coordinatrice et du médecin coordonnateur de la maison. Et ensuite, donc, la décision est prononcée directement par le directeur. Et il prend sa décision, notamment en fonction de la place disponible dans la maison de retraite. Pour rappel, il y a 48 places, 48 studios. Et puis également de la capacité de l'établissement à assurer un accompagnement au quotidien et donc à garantir la sécurité dans de bonnes conditions de la personne qui désire vivre à la Claire-Noé.
Quel est le rôle de la Claire-Noé ?
Alors, le rôle de la Claire-Noé, tu parles peut-être des équipes
De l'établissement, quel est le rôle des équipes de l'établissement ?
D'accord. Alors en fait, il peut y avoir un accompagnement quotidien. N'hésitez pas à m'interrompre, mesdames, j'oublie quelque chose. Un accompagnement quotidien pour, par exemple, les soins, les services ou le service des repas, l'entretien des appartements, l'entretien de la structure, un accompagnement administratif si besoin, pour le courrier par exemple. Et puis il y a également l'entretien du linge. Donc en fait c'est assuré par une équipe. Alors nous parlons d'équivalent temps plein, donc il y a 30 équivalents temps plein qui assurent un rôle très important afin de proposer, une réelle qualité de vie aux personnes qui vivent au sein de la Claire-Noé. Donc ça permet, par exemple, la préservation et la stimulation de l'autonomie, l'encouragement au maintien des liens sociaux, par exemple. Et puis, je vais citer encore une chose, par exemple, le respect du rythme de chacun et de chacune, et puis donc le respect des habitudes de vie, c'est très important. Donc voilà ce que je pourrais citer brièvement.
Moi, j'ai lu que Françoise avait choisi Venise et Bretagne de Tino Rossi. Mais pourquoi vous avez choisi cette chanson ?
Parce qu'elle était beaucoup chantée à ce moment-là, que c'était une chanson très populaire.
D'accord. Si. On a vu que c'est une chanson populaire, beaucoup de gens peuvent la connaître.
Oui. Ouais.
Elle est connue alors.
Elle est connue, oui.
Si Venise la belle, la dimanche lagune, des masques de velours, des poignards, des palais. Bretagne, n'as-tu pas des paysannes brunes et tes fils chevelus et tes champs de jeunesse? Oh, quelle est belle ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir. Elle est plus belle que l'Espagne, qui ne s'éveille que le soir. Elle est plus belle que Venise, qui mire son front dans les eaux. Sentir la brise qui vient du large avec les flots, la brise qui vient du large avec les flots. Avez-vous admiré son océan qui gronde, ses falaises, ses bois, ses bruyères en fleurs, ses longs genêts dorés dans la gorge profonde, quand l'humide matin les baigne de ses fleurs? Elle est belle, ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir. Elle est plus belle que l'Espagne, qui ne s'éveille que le soir. Elle est plus belle que Venise, qui mire son front dans les eaux. Sentir la brise qui vient du large avec les flots, la brise qui vient du large avec les flots.
Quel est votre rôle, Cédric, dans l'EHPAD?
Alors, au niveau de la maison de retraite, je propose et je coordonne un peu comme ici, avec vos animateurs, des projets, des animations culturelles et de loisirs, destinées, bien entendu, avant tout aux résidents et aux résidentes. Et puis, je dirais que l'important, c'est notamment de tenir compte des capacités de chacun, de chacune, des souhaits, des disponibilités. On peut citer des objectifs comme, pour les personnes qui le veulent, le fait de rompre l'isolement, de favoriser l'exercice de la citoyenneté, de garantir le droit à l'information, à la participation à la vie locale, à la participation de la vie de la maison, de maintenir un certain niveau d'autonomie. Avant de terminer, je voulais quand même saluer parce que beaucoup de personnes, parce qu'ils sont importants dans le déroulement au quotidien de la structure. Bon, bien sûr, je voulais saluer tous mes collègues, toute l'équipe. Je voulais saluer tous les résidents, les résidentes et leurs proches, les bénévoles. Les bénévoles qui sont quand même une quarantaine et qui permettent effectivement, c'est très important, de développer un petit peu les propositions d'animation. Et puis tous nos partenaires, comme vous, c'est vrai qu'on peut faire comme ça un lien intergénérationnel. Il y a le club de l'amitié avec qui on fait des jeux de société, il y a la médiathèque, parfois l'école Sainte-Anne. Je tenais à les remercier. Voilà.
Merci.
Merci, au revoir.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Hein, parce qu'on a l'impression qu'on date de l'Antéchrist hein, quand on vous voit là, agité comme ça.
Désolé pour l'agité.
Donc au revoir.
Au revoir.
Et merci.
Au revoir. Au revoir. Merci.
Eh ben, merci beaucoup à vous trois pour être venus dans les locaux de l'Espace Jeune de Torigné pour cette émission. On va se quitter en musique. Alors, on va écouter Dub Incorporation, Laissez le temps. Voilà, c'est...
Ah, laissez le temps, le temps.
Voilà, tout à fait. Donc, et puis, bah, à très bientôt, sûrement, pour une prochaine émission.
À bientôt.
À bientôt. Oui. Au revoir.
Au revoir. Et merci.
Laisse le temps effacer nos peines, même si à présent on ne sera jamais les mêmes. Ressens cette vie qui coule dans nos veines, et d'aussi longtemps dont on se souvient. Chaque épreuve qui passe en amène de nouvelles. Restons soudés pour guérir nos séquelles, séquelles, et certains nos choix sont durs à faire, mais on sait où l'on va et c'est clair. Ce qui doit se passer se passe. Si l'amitié parfois se perd et que plus rien ne nous tempère, ce qui doit se casser se casse. On se traîne dans la crasse, tous face contre face. Quand rien ne marche, quand tout fonctionne, même si l'avenir menace, même les blessures s'effacent. Et puis un jour tout se pardonne. Et même si l'on perd certains de nos combats, on se remet en état, tout ça parce qu'on y croit. Ce ne sont pas les embûches qui vont perdre la voix. À chacune d'entre elles, on se remercie d'être là. On s'approche à la barre face à l'horizon. Peu importe ces courants qui nous attirent au fond, ce qui nous tient debout reste nos chansons, notre son. Laisse le temps effacer nos peines, même si après ça on ne sera jamais les mêmes. Ressens cette vie qui coule dans nos veines, et d'aussi longtemps dont on se souvient. Chaque épreuve qui passe en amène de nouvelles. Restons soudés pour guérir nos séquelles, séquelles, et
laisse le temps effacer nos peines, peut-être qu'un jour on se recroisera. Laisse aller vivre pour toi sans haine, et puis un jour tout s'oubliera. Ça tu le sais, on ne lutte pas, on se bat sans perdre haleine. Certains d'entre nous ont fait que je reste en contrôle face à mes ennuis fuyants. Comme l'air est soulevé par le vent, je respire et j'ose. Est-ce une hérésie? Nos peines sont sourdes, elles resteront pour longtemps. Peut-on se dire les choses sans que ça explose? On retient les mots qui blessent, qu'en est la cause? On passe le temps qui reste à fuir ou prendre parti.
Laisse le temps effacer nos peines, même si après ça on ne sera jamais les mêmes. Ressens cette vie qui coule dans nos veines, et d'aussi longtemps dont on se souvient. Chaque épreuve qui passe en amène de nouvelles. Restons soudés pour guérir nos séquelles, séquelles, jamais les mêmes. Ressens cette vie qui coule dans nos veines, et dont on se souvient. Chaque épreuve qui passe en amène de nouvelles. Restons soudés pour guérir nos séquelles. Séquelles, hey. Laisse le temps et passer nos peines.
Laisse le temps et passer nos peines.
Même si la présence ne sera jamais les mêmes.
Les actus,
c'est 100% à deux.
À nous les